VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir Nathalie Barge. Au sommaire de cette édition du 21 février 2017, le Croissant Rouge libyen a annoncé la découverte de 74 corps de migrants sur une plage libyenne. Au moins 5 morts lundi dans des violences à Conakry selon le gouvernement. Des sources hospitalières font état de 6 morts. Ouverture du procès du meurtre de 4 hommes en 2011 à Abidjan. Robert Mugabe a fêté ses 93 ans, dont 30 ans de pouvoir sans partage au Zimbabwe. Les forces irakiennes resserrent l'étau sur le groupe État islamique à Mossoul. Et le département de la sécurité intérieure américain a publié de nouvelles directives pour l'expulsion de sans-papiers. L'économie et les sports, ce sera juste après le journal. Le département de la sécurité intérieure américain a publié de nouvelles directives pour l'expulsion de sans-papiers, soulignant que presque tous les 11 millions de clandestins présents aux États-Unis étaient potentiellement expulsables. Le point avec Nicolas Pineau.
Oui, dans deux directives, le secrétaire à la sécurité intérieure, John Kelly, a ordonné aux agents des douanes et de l'immigration d'expulser aussi rapidement que possible tous les clandestins qui se trouveraient évidemment sur le territoire. La note est très claire et je cite « À de très rares exceptions, le département n'exemptera aucune catégorie d'étrangers expulsables », explique l'administration. Tous ceux qui ont violé les lois d'immigration peuvent faire l'objet de poursuites pouvant aller jusqu'à l'expulsion des États-Unis. Alors, l'administration définit 7 niveaux de priorité pour les expulsions de clandestins, à commencer par ceux condamnés pour des délits ou des crimes, mais la liste inclut aussi ceux qui sont simplement accusés de délits et laisse à la libre appréciation des fonctionnaires l'évaluation du danger posé par un sans-papier à l'ordre public ou à la sécurité nationale. Les directives maintiennent en revanche la protection accordée par le président Barack Obama depuis 2012 aux sans-papiers arrivés enfants sur le territoire américain dans le cadre d'un programme nommé DACA. On rappelle que la sécurité intérieure américaine annonce l'embauche de 5000 agents des douanes, 10000 agents de l'immigration pour permettre d'accélérer l'expulsion des clandestins.
Merci Nicolas. Au moins 5 personnes ont été tuées lundi à Conakry dans des violences lors de manifestations pour réclamer la réouverture des classes, a annoncé le gouvernement. De leur côté, des sources hospitalières et policières font état d'un bilan de 6 morts. Ces manifestations ont également fait 30 blessés, dont des membres des forces de l'ordre, selon la même source. Les autorités du Gabon, où l'enseignement public primaire et secondaire tourne au ralenti depuis des mois, ont annoncé des sanctions contre les enseignants grévistes au lendemain de marches de lycéens suscitées, selon le gouvernement, par les professeurs et dispersés par la police. Lors d'une conférence de presse, le porte-parole du gouvernement Alain-Claude Billier-Mbinze a annoncé la suspension de la solde de 807 enseignants du primaire et secondaire. Lundi, la police a dispersé des manifestations lycéennes à Libreville, Port-Gentil et Lambaréné pour demander la reprise des cours. Ouverture aujourd'hui en Côte d'Ivoire du procès des disparus du Novotel. 4 hommes avaient été enlevés le 4 avril 2011 à cet hôtel d'Abidjan au plus fort de la crise post-électorale, puis assassinés. Éric Manirakinza.
L'ancien commandant de la garde républicaine, le général Mrino Dogboblé, est le principal accusé. Il est poursuivi pour séquestration et assassinat, tandis que les co-accusés le sont pour enlèvement et ou disparition de cadavres. 5 ans après, la justice et les parties civiles ne parviennent pas à connaître les commanditaires ni où se trouvent les corps de Stéphane Franz Diripel, directeur du Novotel, du Béninois Raoul Adeossi, assistant du directeur général du CIFCA, plus grand groupe agro-industriel ivoirien, et du Malaisien Chelia Pandiane, directeur général d'une filiale de CIFCA. Fin mai 2011, deux corps avaient été retrouvés dans la lagune près d'Abidjan, mais seul le cadavre d'Yves Lambelin, directeur général de CIFCA, avait pu être formellement identifié. Malgré les témoignages, la défense dénonce une instruction bâclée sans analyse balistique ou ossements retrouvés. Selon Maître Ange Rodrigue Dadjé, avocat du général Dogboblé, on est en train de vouloir condamner les innocents.
Le procès de l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, jugée pour crime contre l'humanité, a de nouveau été reporté au 7 mars à la demande du parquet général. Madame Gbagbo était absente lors de l'audience du tribunal d'Abidjan. Ce renvoi est intervenu après plusieurs exceptions soulevées par les avocats commis d'office. Ils ont dénoncé l'irrégularité de la constitution de la cour. Un des deux assesseurs du président ayant été remplacé sans respecter le mode de désignation. La défense a également affirmé ne pas détenir l'arrêt qui notifie les raisons de poursuite de leurs clientes. Violence xénophobe en hausse en Afrique du Sud. Les récentes attaques contre des entreprises appartenant à des immigrants nigérians, éthiopiens, somaliens et pakistanais ont suscité l'indignation des défenseurs des droits humains. Claire Morin-Gibourg.
La tension est palpable à Johannesburg alors que les attaques contre des commerces appartenant à des immigrés continuent. Certains habitants accusent ces immigrés d'être les auteurs de délits et d'être une menace à la sécurité. À Pretoria, des violences ont eu lieu dans des quartiers pauvres, comme lors de la vague de xénophobie qui avait frappé Johannesburg et Durban en 2015. Selon les forces de l'ordre, au moins 20 habitations et commerces ont été attaqués hier lundi. Aucune arrestation n'a eu lieu, car selon la police, aucun immigré n'a porté plainte. Le président Jacob Zuma ne s'est pas encore prononcé sur ces attaques. Le maire de Johannesburg avait, en décembre dernier, publiquement accusé les immigrants de rançonner le pays. Ses commentaires lui avaient valu de vives critiques.
Les corps de 74 personnes ont été découverts sur une plage de Zawaya, dans l'ouest de la Libye. Jacques Aristide nous en dit plus.
Il s'agit d'adultes venant pour la plupart d'Afrique subsaharienne et trois femmes figurent parmi les victimes, d'après le Croissant-Rouge libyen. L'organisme de secours a été alerté hier par des habitants de Archa, à l'ouest de Tripoli, suite à la découverte d'un bateau échoué sur la plage, avec à l'intérieur plusieurs cadavres de migrants clandestins. Le Croissant-Rouge libyen dit ne pas disposer de véhicules appropriés pour transporter les corps ou de cimetières pour les inhumés. Certains corps sont donc restés sur la plage et d'autres, inaccessibles, flottaient dans l'eau. La traversée vers l'Italie au départ de la Libye est devenue la première voie d'accès à l'Union européenne. L'an dernier, 181 000 migrants ont foulé le sol italien. Les passeurs profitent du chaos libyen depuis la chute de Muammar Kadhafi pour organiser des départs. Les organisations humanitaires redoutent de mauvais traitements sur des migrants qui sont bloqués en Libye à cause des mesures européennes pour barrer la route à l'immigration clandestine.
Les combats ont repris ce mardi entre forces gouvernementales et rebelles au Kordofan Sud, dans le sud du Soudan, après plusieurs mois d'accalmie. Le porte-parole des forces armées soudanaises, Khalifa Chami, a accusé les rebelles d'avoir attaqué une de leurs positions près de Kadougli, capitale du Kordofan Sud. Nous les avons repoussés et avons perdu un homme, tandis que 10 autres ont été blessés, a-t-il précisé. Côté rebelle, le porte-parole de la branche nord du mouvement populaire de libération du Soudan, Arnoud Lodi, a accusé l'armée d'avoir attaqué une de leurs positions malgré l'annonce d'un cessez-le-feu par le président Omar el-Béchir. Le président nigérian Muhammadu Buhari va prolonger son séjour à Londres où il se trouve depuis un mois pour des raisons médicales, a annoncé son porte-parole Femi Adesina. Le président souhaite assurer les Nigérians qu'ils n'ont pas à se faire de soucis, a-t-il ajouté dans un communiqué, sans préciser combien de temps M. Buhari resterait à l'étranger ni de quoi il pouvait souffrir. Près de 1,4 million d'enfants risquent de mourir de la famine cette année au Nigeria, en Somalie, au Soudan du Sud et au Yémen. Selon l'UNICEF, 450 000 enfants souffrent de malnutrition sévère dans le nord-est du Nigeria. La sécheresse en Somalie a laissé 185 000 enfants au bord de la famine et ils seront environ 270 000 d'ici quelques mois, a mis en garde l'agence onusienne. Au Soudan du Sud, ils sont plus de 270 000 à en souffrir et la famine vient juste d'être déclaré dans certaines parties de l'état d'unité où vivent 20 000 enfants.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les forces irakiennes consolident leur position après une percée vers les limites de Mossoul. Des commandants se disant confiants dans une progression rapide pour la reprise aux djihadistes de la partie occidentale de la ville. La partie orientale a été libérée fin janvier, 3 mois après le début d'une vaste offensive pour reconquérir la cité septentrionale. Les milliers de soldats, policiers et miliciens engagés dans l'opération lancée dimanche pour reprendre l'ouest de Mossoul cherchent d'abord à conquérir l'aéroport désaffecté et une ancienne base adjacente. Un tribunal militaire israélien a condamné à 18 mois de prison le soldat Elor Azaria, accusé d'avoir achevé un assaillant palestinien blessé. Salwa Jafari.
Le procureur général Nadav Weizmann a annoncé le verdict devant un parterre de journalistes. 18 mois de prison pour le soldat Elor Azaria. Il avait été filmé le 24 mars 2016 par un militant pro-palestinien d'une ONG israélienne alors qu'il tirait une balle dans la tête d'Abdel Fattah al-Sharif à Hébron, Cisjordanie, territoire occupé par Israël. Le Palestinien venait d'attaquer des soldats au couteau. Atteint par balle, il gisait au sol, apparemment hors d'état de nuire. L'autorité palestinienne dénonce un jugement biaisé. Les proches du Palestinien ne sont pas surpris par le verdict. Fattah al-Sharif est l'oncle de la victime.
Ce procès est écrit par l'occupation israélienne. C'est un jeu pour eux. Un scénario écrit et produit entièrement par les Israéliens. En tant que membre de la famille de la victime, que pourrions-nous espérer?
Au moment des faits, les territoires palestiniens, Jérusalem et Israël étaient en proie à une vague de violence quasi quotidienne. Elles ont fait 252 Palestiniens tués et 40 Israéliens. Les autorités israéliennes assurent que les Palestiniens tués étaient des assaillants. En revanche, les autorités palestiniennes dénoncent des exécutions.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Morgane Guiriec.
La reprise de la croissance s'accélère au Burkina Faso. L'économie a cru plus fortement que ne l'attendait le gouvernement l'an dernier. Pour 2017, le ministère de l'économie table sur une prévision encore plus forte autour de 7,6%, une embellie qui s'explique essentiellement par le rebond de la production agricole et minière. Pour éradiquer la corruption, mieux vaut traquer les tigres que les mouches. C'est en ces termes que s'est exprimée Christine Lagarde dans son analyse de la santé des Afriques. La directrice générale du Fonds monétaire international, qui s'est rendue en Centrafrique, en Ouganda et à Maurice le mois dernier, a également mis l'accent sur la lutte contre les inégalités. Côte d'Ivoire, Air France lance une nouvelle chaîne d'information via WhatsApp. La compagnie aérienne entend ainsi répondre aux nouvelles attentes des consommateurs et enrichir l'expérience client. Un service totalement gratuit, diffusant des informations, des offres ou des conseils de voyage à ses passagers.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Nathalie.
On en sait plus sur la bousculade mortelle lors d'un match de foot en Angola.
Oui, une vingtaine de personnes avaient trouvé la mort devant le stade de football de Huige, dans le nord de l'Angola, avant le coup d'envoi d'un match entre le club local de Santa Rita et du Recreativo do Libolo. La Fédération angolaise de football annonce donc ce mardi une défaillance du dispositif de sécurité. On rappelle que le dernier bilan officiel fait état de 17 morts, 58 blessés, mais selon des sources médicales, au moins 25 personnes sont mortes.
Suite des huitièmes de finale de la Ligue des Champions ce soir en Europe.
À l'Etihad Stadium, Manchester City et Pep Guardiola, qui alternent le bon et le moins bon cette saison, reçoivent Monaco, solide leader du championnat de France. Monaco, la meilleure attaque d'Europe, qu'on n'attendait pas à un tel niveau cette saison, face à l'une des grosses écuries de Première Ligue, entraînée par l'expérimenté Pep Guardiola, qui a amené à deux reprises le FC Barcelone sur le toit de l'Europe en 2009 et 2011. L'autre match ce soir, les Allemands du Bayer Leverkusen vont recevoir l'Atlético Madrid et sa paire d'attaquants français Antoine Griezmann et Kevin Gamero. Finaliste de la Ligue des Champions en 2014 et en 2016, l'Atlético part favori face au Bayer, huitième du championnat d'Allemagne actuellement.
La suite, c'est demain.
Oui, la Juventus Turin, finaliste de l'édition 2015, se lance dans les huitièmes de finale de cette Ligue des Champions en position de favori sur la pelouse du FC Porto. Ce sera demain une soirée riche en duels, plus indécis cette fois-ci entre Séville et Leicester. On rappelle que la Juve reste sur 5 titres de champion d'Italie d'affilée et cette saison encore, elle dispose d'une large avance en Serie A. Dans l'autre huitième de finale aller, Séville reçoit Leicester, champion d'Angleterre à la surprise générale la saison passée. Mais l'équipe de Claudio Ranieri est en très grande difficulté cette année en Première Ligue, 17e à la limite de la zone de relégation.
Et le choc en Espagne demain, Real Madrid-Valence.
Le Real Madrid à nouveau au complet se déplace à Valence pour disputer le premier de ses deux matchs en retard en championnat d'Espagne et tenter de distancer ses dauphins. Actuellement, le Real est leader avec 52 points, un point d'avance face au FC Barcelone et 3 sur le FC Séville. Avant ce match de la 16e journée, il avait été décalé en décembre dernier pour permettre au club merengue de disputer et de remporter le mondial des clubs.
Merci Nicolas pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers du jour. Léger remaniement ministériel hier soir au Burkina Faso. Principal changement, le président Roch Kabore a cédé le poste de ministre de la Défense. Quant au domaine de la sécurité, il fait désormais l'objet d'un ministère dédié. Seulement 2 ministres quittent le gouvernement et 5 y entrent. Ce changement a-t-il répondu aux attentes des Burkinabés? Bagassi Koura a posé la question à Siaka Koulibaly, analyste politique à Ouagadougou.
Les Burkinabés avaient peut-être pensé qu'on devait s'acheminer vers un profil beaucoup plus technocratique avec des gens ayant une expérience confirmée des questions de développement en vue de se porter tout de suite sur les résultats auxquels le fonctionnement des départements ministériels devrait donner. Alors, le gouvernement avait un avantage, c'était de ne pas avoir été pris en otage par les classiques du pouvoir, du parti au pouvoir. Et comme c'était souvent le cas sous le régime contemporain, c'est vrai que cet aspect a été renversé par le président Roch Marc-Christian Kabore. Mais en revanche, les personnalités qui avaient été mises étaient considérées comme n'ayant pas suffisamment d'expérience pour rencontrer tout de suite les attentes du peuple burkinabé qui sont importantes. Il y avait des aspects politiques, mais l'essentiel, c'était les droits socio-économiques et la provision des biens et services par les services publics aux populations.
On voit que le changement est surtout intervenu au niveau de la sécurité, de la défense, hein, mais il n'y a pas de militaires dans ce gouvernement.
Voilà. Oui. Le président avait annoncé ça déjà lors de son entretien du 29 novembre avec les journalistes. Il avait dit qu'il n'y avait pas de militaires dans son gouvernement. Cet aspect a été respecté, mais là-dessus, on se demande est-ce que tel que ça se présente, on aura l'efficacité qui est exigée par les défis de l'heure, à savoir une insécurité beaucoup plus grande due aux attaques terroristes. Jusque-là, on n'avait pas vu vraiment l'armée aux premières loges là-dessus. Donc, on s'est dit que le fait d'avoir un ministre spécialisé, enfin, séparé, qui traite des questions, au moins les dimensions administratives et managériales de la défense vont au moins connaître beaucoup plus d'attention de la part du ministre que quand c'était pris en charge par le président du Faso lui-même.
Est-ce qu'il faut s'attendre à ce qu'il y ait des changements sur le terrain dans les jours à venir, ne serait-ce que dans la façon de gouverner?
Justement, le remaniement qui a été fait hier ne permet pas d'envisager des changements majeurs, parce que c'est justement là où les Burkinabés ne sont pas satisfaits de ce changement, de ce remaniement, parce que c'était attendu à beaucoup plus de remue-ménage au niveau gouvernemental. Donc, les changements ne vont pas être importants dans la mesure où, dans la plupart des départements ministériels, les pensionnaires sont restés les mêmes.
Le politologue Siaka Koulibaly était joint à Ouagadougou.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
Environ 2 millions de réfugiés sont confrontés à des pénuries alimentaires en Afrique, ont averti le Programme alimentaire mondial et le Haut Commissariat aux réfugiés. Ces agences onusiennes disent avoir réduit en quantité et en qualité leur assistance. Dans certains cas, les rations ont été réduites de moitié. Les donateurs n'ont fourni qu'un tiers des fonds demandés en 2016. Timothée Donangmaï a joint à Genève Cécile Pouilly, chargée de communication du HCR.
Eh bien, vous savez, le nombre de réfugiés en Afrique a presque doublé entre 2011 et 2016. Et même si la réponse humanitaire a augmenté, elle reste malheureusement insuffisante en raison du manque de fonds.
Le PAM et le HCR font état d'une réduction dramatique de l'assistance alimentaire, qu'en est-il?
Oui, en effet, dans certains cas, les rations alimentaires ont dû être diminuées de manière assez drastique et même à hauteur de 50% dans certaines situations, dans des opérations telles que le Cameroun, le Tchad, le Kenya, la Mauritanie, le Soudan du Sud et l'Ouganda. Et l'on voit des conséquences graves sur les réfugiés. Pour certains, ils n'ont pas le droit de travailler, donc ils sont dans des situations extrêmement difficiles et même s'ils essayent de faire de leur mieux pour s'en sortir, ils sont dans des situations compliquées. On voit des conséquences en termes de santé, on voit des conséquences en termes de protection parmi ces personnes vulnérables. Et donc, on appelle aujourd'hui les donateurs à faire davantage pour mettre fin à ces pénuries alimentaires et pouvoir protéger les plus faibles.
En attendant, qu'est-ce qui peut être fait concrètement en faveur de ces réfugiés?
Alors, bien sûr, nos interventions sur place continuent. Nous essayons de faire de notre mieux avec les ressources budgétaires qui sont les nôtres. Mais il faut être très clair, si on n'a pas les fonds nécessaires, nous ne pouvons pas intervenir comme nous le souhaitons. Et rappelons que parmi ces réfugiés, certains arrivent dans des états très compliqués. Par exemple, depuis le mois de janvier, à peu près 75% des enfants réfugiés qui arrivent de Somalie en Éthiopie sont gravement malnourris. Donc on est dans des situations où il faut vraiment intervenir rapidement pour éviter des conséquences très graves sur les gens et en particulier sur les enfants. Éviter également que les réfugiés n'aient recours à des situations pour gérer cette crise très grave. Alors par exemple en sautant des repas ou avec des conséquences pour les enfants comme qui les obligent à sortir de l'école pour aller travailler et aider à subvenir aux besoins de leur famille.
Quelle est l'incidence de cette situation sur les communautés voisines de ces réfugiés?
Les communautés voisines sont forcément impactées par cette situation. Pour certaines, elles font aussi face à des situations de pénurie. On voit en ce moment, par exemple, dans la Corne de l'Afrique, une situation de sécheresse qui touche non seulement les réfugiés, mais également les communautés locales. Il faut leur venir en aide également, c'est très important. Et nous faisons notre maximum dans les contraintes qui sont les nôtres en raison de ces limites budgétaires.
Cécile Pouilly, chargée de communication du HCR, était jointe à Genève. La consommation du tabac dans les lieux publics et la contrebande font toujours leur loi au Togo, malgré l'existence de textes juridiques qui les interdisent. En effet, le non-respect de la loi anti-tabac exacerbe la société civile, qui reconnaît toutefois des avancées, rapporte notre correspondante à Lomé, Kayi Lawson.
Le 30 décembre 2010, l'Assemblée nationale togolaise a voté une loi pour contrôler le secteur du tabac dans le pays. Plus de 6 ans après, des lignes ont bougé, mais pas à la hauteur des attentes. Fabrice Ebé, directeur exécutif de l'Alliance nationale des consommateurs et de l'environnement.
On ne voit plus aujourd'hui les panneaux géants des films de tabac dans les rues, ou bien les véhicules des films de tabac avec leur logo partout, on ne les voit plus. Il y a aujourd'hui les avertissements sanitaires sur les paquets, quand bien même ce n'est pas encore les images, mais c'est les messages. La réglementation des points de vente, il y a beaucoup de soucis parce que normalement, on ne peut plus vendre aujourd'hui le tabac n'importe où. Pour vendre, il faut avoir une licence particulière. Et ensuite, on ne peut plus vendre le tabac en détail.
L'autre problème est le non-respect des dispositions fiscales en matière de tabac, soulève l'Association togolaise des consommateurs. Benetti Gagalo, vice-président de l'ATC.
Le problème de tabac engendre beaucoup de conséquences socio-économiques. C'est-à-dire que c'est un manque à gagner pour l'État. Les commerçants véreux font des déclarations comme ces produits sont en transit et après on retrouve ces produits sur le territoire. Ceci dit que le produit n'a pas subi les dispositions en matière de fiscalité. Donc, c'est un manque à gagner pour l'État.
Depuis le 1er septembre 2014, les emballages de cigarettes qui circulent au Togo portent des informations sanitaires. En plus d'informer la population sur les dangers que représente la consommation de tabac, c'est une stratégie pour lutter contre la contrebande. Docteur Vigno Kumako, coordinateur du programme anti-tabac.
Sur les faces principales, on a les avertissements sanitaires. Donc, en français et en évé sur la première face, en français et en cabiais sur l'autre face. Et sur les faces latérales, en dessous de la marque, nous avons vente uniquement autorisée au Togo, ce qui permet de reconnaître le vrai du faux et de pouvoir faire rapidement les diagnostics de contrebande. Et sur l'autre face, la fumée du tabac contient du benzène, substance cancérigène bien connue.
Même si le souhait de la société civile est d'interdire l'importation du tabac au Togo compte tenu de ses conséquences, le professeur Tulasi Kodjo-Akpaka indique que cela ne peut se faire qu'à contraire aux règles du commerce et de l'intégration.
Il interdit d'interdire le commerce, surtout dans le cadre des institutions d'intégration. Lui et moi, la CEDEAO, la CEMAC, il y a des clauses qui favorise la libre circulation des facteurs de production et des produits. Donc on ne peut pas interdire a priori. Il vaut mieux prévenir.
Kailosson, Lomé, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Togo sur Canal FM à Lomé, sur Radio Tchaudio à Sokodé et sur Radio Excelsior à Atakpané.
Le président américain Donald Trump a visité ce matin à Washington le musée de l'histoire afro-américaine. Ce musée est un magnifique hommage à tant de héros américains, a souligné Monsieur Trump. Pour une analyse, Claire Morin-Gibourg a joint Marilyn Sefocle, professeure à Howard University.
Alors, il y a justement une sorte de petite contradiction ici, puisque il a promis surtout davantage de police dans les quartiers africains-américains. Et donc, cela va un petit peu à l'encontre des attentes de beaucoup d'Africains-américains, puisque l'histoire a démontré que davantage de police n'était pas la solution idéale, que ce qui était la solution idéale, en fait, c'était surtout de permettre aux jeunes noirs, surtout, d'intégrer davantage les lycées, les universités, et de s'assurer davantage de leur succès, plutôt que d'avoir des mesures punitives qui visent surtout à les emprisonner.
Avez-vous été surprise de ces déclarations à la sortie de la visite du musée?
Il y a un parallèle, si vous voulez, mais en fait, ce que la communauté, je suppose, je ne parle pas au nom de toute la communauté africaine-américaine, mais ce qu'on aurait voulu savoir aussi, c'est de comprendre le poids de l'histoire des Africains-américains, parce que c'est surtout cela, il s'agit surtout de cela dans le musée africain-américain.
Et quelle sorte de politique le président Trump peut-il mettre en place en faveur de la communauté africaine-américaine?
Politiquement, d'abord, il y a des mesures et des programmes qui ont été lancés sous le président Obama, comme par exemple My Brother's Keeper. Et ce type de programme devrait être non seulement continué, mais renforcé. Il faudrait aussi qu'ils comprennent vraiment le poids de l'histoire des Africains-Américains. Si on en arrive là aujourd'hui avec une population carcérale qui représente 25% de la population carcérale mondiale, alors que la population américaine représente 5% de la population carcérale, si on en arrive à donc 40% des personnes incarcérées, que 40% de ces personnes incarcérées soient des Noirs américains, c'est qu'il y a eu au départ un énorme problème historique. Il y a eu toutes ces lois de Jim Crow, ce qu'on appelle les Jim Crow Laws, ces lois de Jim Crow qui visaient pour une broutille incarcérer les Noirs américains. Et jusqu'à maintenant, cet esprit de criminaliser les Noirs américains continue d'exister.
C'était le professeur Marilyn Sefocle, elle était jointe à Washington.
Salut les amis, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mardi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, c'était Georges Léonard Sagnot. À la console, c'était Nachouane Kalé. À la présentation, Nathalie Barge. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voaafrique.com pour l'actualité en continu. Très bonne soirée à tous.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, à Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayegouya Burkina Faso et bien d'autres encore, sans oublier sur Onde Courte, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.